Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié initialement en 2005, Par-delà, Nature et Culture est un essai majeur de l'anthropologue Philippe Descola. S'appuyant sur une vaste littérature ethnographique et sur son expérience amazonienne, l'ouvrage met en cause une évidence de la pensée occidentale moderne, la séparation entre une nature universelle, matérielle et objective, et des cultures humaines diverses. Pour Descola, cette opposition ne décrit pas une donnée valable partout, mais une manière historiquement située de distribuer les êtres et leurs propriétés. Son projet est donc à la fois comparatif et théorique, fournir à l'anthropologie des outils qui ne réduisent pas les mondes non occidentaux à des croyances imparfaites face à la science. Il propose une typologie de quatre ontologies, animisme, totémisme, analogisme et naturalisme, définies par les continuités ou discontinuités qu'elles établissent entre humains et non-humains. Dense mais méthodiquement construit, le livre invite à repenser les collectifs, les techniques, l'écologie et les catégories même des sciences humaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la séparation nature-culture comme particularité occidentale. Le geste inaugural de Descola consiste à dénaturaliser le partage entre nature et cet Arthur. L'anthropologie classique a souvent étudié la diversité des sociétés humaines sur le fond, supposée stable d'une même nature. Or, cette grille présuppose précisément ce qu'elle devrait interroger que les humains formeraient un domaine culturel distinct, tandis que les animaux, plantes, objets et milieux relèveraient d'un extérieur naturel. Descola soutient que cette distribution est caractéristique du naturalisme moderne occidental, non une vérité universelle. Dans de nombreux collectifs, les non-humains ne sont pas un décor passif ou une ressource extérieure, ils peuvent être traités comme des partenaires, des parents, des agents ou des éléments inscrits dans des réseaux de correspondance. La conséquence méthodologique est considérable. Décrire ces relations avec les seules catégories occidentales de croyances, symboles ou représentations risque de les rabattre sur une erreur par rapport à notre science. L'auteur demande plutôt de comparer des manières différentes de composer un monde commun. Il ne nie ni les réalités biologiques, ni les savoirs scientifiques. Il conteste l'idée que ces réalités imposeraient d'elles-mêmes une frontière ontologique fixe entre humains et non-humains. Cette critique vise ainsi moins la science que l'universalisation silencieuse de ses cadres sociaux et métaphysiques. Deuxièmement, les quatre ontologies issues de l'intériorité et de la physicalité. La typologie de Descola repose sur deux dimensions par lesquelles les existants sont identifiés: l'intériorité, soit les capacités associées à la subjectivité, aux intentions et aux affects, et la physicalité, soit les dispositions corporelles et matérielles. Selon que l'on perçoit continuité ou discontinuité sur chacun de ces deux plans entre soi et autrui, quatre grandes configurations deviennent possibles. L'animisme reconnaît une continuité des intériorités entre humains et non-humains, tout en distinguant les corps. Le naturalisme, dominant dans la modernité occidentale, postule au contraire une continuité physique, soumise à des lois communes, mais réserve largement l'intériorité et la culture aux humains. Le totémisme associe continuité morale et matérielle au sein de groupes liés à des entités ou territoires. L'analogisme part d'un monde fragmenté, où les singularités sont nombreuses, et les relie par des correspondances, des analogies et des hiérarchies. Ces catégories ne sont pas des étiquettes ethniques rigides, ni une classification de peuples immuables. Elles sont des modèles comparatifs permettant de saisir des orientations dominantes dans la manière de reconnaître des identités et des différences. Leur intérêt tient à leur symétrie, le naturalisme cesse d'être la norme implicite à partir de laquelle les autres mondes seraient jugés. Troisièmement, animisme. Totémisme et analogisme ne sont pas des croyances archaïques. L'un des apports les plus exigeants du livre est de déplacer le vocabulaire avec lequel les sciences sociales abordent les cosmologies non occidentales. Qualifier l'animisme de croyance revient facilement à opposer une interprétation locale considérée comme imaginaire à une nature que la science aurait enfin révélée. Descola refuse cette asymétrie. L'animisme désigne une logique d'identification dans laquelle des non-humains peuvent être dotés d'une intériorité comparable à celle des humains, tandis que leur corps différencie leur perspective et leur manière d'agir. Le totémisme ne se réduit pas davantage à un culte de l'animal, il organise des continuités entre groupes humains, espèces, lieux et propriétés. Quant à l'analogisme, il ne se confond pas avec une pensée confuse de la ressemblance. Il cherche à rendre un monde fait de différences très nombreuses intelligibles par des chaînes de correspondance. En les traitant comme des ontologies, Descola ne demande pas d'adopter toutes leurs prémices. Il demande de reconnaître qu'elle structure des pratiques, des obligations et des formes de coexistence. Ce déplacement prévient deux erreurs opposées: idéaliser les sociétés étudiées comme écologiquement parfaites ou les réduire à des survivances prélogiques. La comparaison devient plus rigoureuse lorsqu'elle examine les conditions de cohérence interne de chaque collectif. Quatrièmement, des schèmes de relations pour comprendre les pratiques et les collectifs, la typologie ne porte pas seulement sur des idées concernant les animaux ou les esprits. Descola cherche à montrer que les modes d'identification se prolongent dans des schèmes de relations manières de traiter les êtres, d'établir des alliances, de transmettre des biens, de définir des obligations ou d'agir sur un milieu. Un collectif ne doit donc pas être défini par les seuls humains qui le composent. Ses frontières dépendent aussi de la place reconnue aux non-humains et des liens qui les associent aux personnes. Cette approche évite de séparer artificiellement cosmologie, organisation sociale et action technique. Les conceptions de ce qu'est un animal, une plante ou un territoire influencent les formes légitimes de prélèvement, de soins, de domestication, d'échange ou de protection. Elles n'en déterminent pas mécaniquement chaque conduite, mais elles rendent certaines relations plus pensables et plus recevables que d'autres. Descola réélabore ainsi un héritage structuraliste sans réduire la vie sociale à des structures immobiles. Ces schèmes sont pratiques, acquis et susceptibles de combinaisons. L'intérêt de ce cadre est d'offrir un langage comparatif pour analyser des relations, sans présumer que toute action sur le monde relève de la même séparation entre un sujet humain actif et un objet naturel passif. En dernier lieu, une critique des catégories de production et des réponses écologiques naturalistes. Par-delà nature et culture a exercé une influence durable sur la réflexion écologique parce qu'il montre que protéger la nature et l'exploiter peuvent relever d'un même cadre. Naturaliste dans les deux cas, la nature est pensée comme un domaine distinct des humains. L'ouvrage ne fournit pas un programme environnemental prêt à appliquer, ni ne prétend que l'adoption d'une autre ontologie résoudrait les crises écologiques. Son apport est plus fondamental, il oblige à examiner les catégories par lesquelles les problèmes sont formulés. Descola critique notamment l'usage universalisant du modèle de la production. Ce modèle suppose un agent individualisé donnant forme à une matière distincte de lui, puis s'appropriant le résultat. Il convient à certaines pratiques occidentales, mais peut déformer des contextes où l'action est comprise comme transformation réciproque, continuité de processus vivant ou ajustement à des relations préexistantes. Employer partout les mêmes mots pour la production des personnes, des liens sociaux ou des choses crée alors de faux parallèles. Pour les débats contemporains, cette leçon encourage une attention concrète aux relations plutôt qu'aux seules entités séparées. Elle invite aussi les sciences humaines à prendre au sérieux les êtres non humains sans leur attribuer abstraitement une voix ou une volonté identique à celle des humains. En conclusion, cet ouvrage s'adresse d'abord aux étudiants, chercheurs et enseignants en anthropologie, philosophie, sociologie, géographie, études environnementales ou arts, mais il intéressera aussi les lecteurs prêts à interroger les évidences de la modernité occidentale. Sa lecture demande du temps, l'ambition théorique est grande, le matériau ethnographique abondant et les distinctions conceptuelles doivent être suivies avec précision. En échange, le lecteur acquiert un cadre particulièrement puissant pour éviter deux simplifications fréquentes, considérer la nature comme un univers extérieur identique partout, ou réduire les autres manières de vivre à de simples croyances culturelles ajoutées à cette nature. Le bénéfice intellectuel est moins de recevoir une solution écologique clé en main que d'apprendre à poser autrement les questions de coexistence entre humains, animaux, plantes, objets et milieux. Par rapport à de nombreux essais sur l'environnement, le livre se distingue par sa profondeur comparative et par son refus des réponses morales rapides. Par rapport aux monographies ethnographiques, il se distingue par l'ampleur de sa tentative de classification, qui relie des matériaux issus de régions et d'époques différentes. Descola ne propose pas de remplacer le naturalisme par une ontologie supérieure. Il le replace parmi plusieurs possibilités historiques et ouvre ainsi un espace de comparaison plus symétrique. C'est cette combinaison de rigueur conceptuelle, de portée critique et d'attention aux pratiques qui en fait une référence durable des sciences humaines. Si vous souhaitez soutenir Philippe Descola, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.